RTL Première Radio de France. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end au mieux et bien évidemment à l'écoute des programmes d'RTL. C'est chaque jour un plaisir de vous retrouver hein, entre 15h et 16h, de parler avec vous, d'échanger, d'évoluer aussi au gré de vos témoignages qui arrivent au 32-10. Bonjour Marcel Ichoux.
Bonjour Flavie.
Alors Marcel, aujourd'hui, grand programme, nous allons parler des personnes que l'on dit surdouées. Qui n'a pas un jour rêvé d'avoir un enfant précoce ou d'être soi-même surdoué? Pourtant, derrière ces aptitudes exceptionnelles se cachent bien souvent des difficultés et des souffrances réelles. Plus le QI est élevé, plus les personnes surdouées seraient confrontées à des problèmes d'intégration, à des problèmes de mal-être. Alors avoir un haut potentiel est-il un atout ou un cadeau empoisonné? Votre enfant est précoce, vous êtes vous-même surdoué. Faites-nous part de votre expérience et de vos interrogations. Notre invitée aujourd'hui est la psychologue clinicienne et psychanalyste Monique de Kermadec. Vous êtes spécialiste de la question. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué ». C'est aux éditions Albin Michel. Bonjour Monique de Kermadec.
Bonjour.
Merci de passer une heure en notre compagnie et puis d'éclairer aussi de votre expérience les auditeurs d'RTL. Alors, avant, question toute simple, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, est-ce qu'on sait réellement ce qu'est une personne surdouée ?
Une personne surdouée est une personne qui possède des talents qui le démarquent, soit des enfants de son âge, soit des adultes de son âge. C'est quelqu'un qui a l'aptitude à trouver des réponses plus facilement à certaines questions, qui a un talent particulier dans un domaine ou dans un autre.
Est-ce que c'est être plus intelligent ?
Tout dépend de ce que nous entendons par intelligence, car nous savons aujourd'hui qu'il existe de multiples intelligences. Il y a une intelligence cognitive, mais il y a aussi une intelligence affective, une intelligence relationnelle, une intelligence, je dirais, dans le domaine de l'art, du sport.
Quand on parle d'un enfant précoce, est-ce qu'il est forcément un enfant surdoué? Est-ce que c'est la même chose?
On a longtemps hésité en France entre précoce et surdoué. J'aime beaucoup le terme anglais « gifted », parce qu'il y a la notion de talent que nous n'employons que pour les artistes. Et ce talent laisse bien entendre qu'il y a quelque chose que l'on doit mettre un travail au travail un jour ou l'autre.
Oui.
Donc, alors, surdoué fait souvent penser à Einstein, Léonard de Vinci, et c'est une des raisons pour lesquelles on a employé pour les enfants précoces.
Monique de Kermadec, pourquoi parle-t-on autant justement des enfants précoces ou surdoués aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, beaucoup plus qu'il y a 30 ans? Moi-même, en tant que maman, j'ai été confrontée à, vous devriez peut-être faire un test. Tous les parents sont confrontés à cette question aujourd'hui.
Oui, on s'est rendu compte qu'en fait, avoir des facilités ou avoir une certaine intelligence n'était pas nécessairement le gage de la réussite. Et que certains enfants et certains adultes qui avaient de très bons atouts pouvaient rester sur le côté du chemin, pouvaient aussi être en souffrance. Donc, à l'écoute de ces enfants et de ces adultes, on a commencé à en parler et il est très important qu'on en parle car il y a un gâchis réel de talent si nous mettons tout cela de côté.
Mais est-ce que le terme précoce ou surdoué n'est pas galvaudé aujourd'hui ?
Oui, on rêve peut-être d'avoir un enfant précoce ou d'être surdoué ou d'avoir un enfant surdoué. L'important, je crois, c'est d'avoir de toute façon une intelligence, des talents suffisants qui nous permettent de mener une vie satisfaisante et heureuse.
Quels sont les signes qui pourraient laisser croire qu'une personne ou qu'un enfant est surdoué ?
Chez les enfants, ça se remarque très souvent par de très bonnes aptitudes verbales très jeunes. Ça se remarque par une très grande curiosité. Ces enfants peuvent apprendre à lire plus tôt. On l'a répété de nombreuses fois. Je n'en ferai pas un critère essentiel, car il y a des enfants précoces qui apprennent à lire en CP. Par contre, il est vrai que ce soit l'enfant ou l'adulte, ce qui frappe le plus, c'est l'énergie, l'intensité, la grande, je dirais, la grande sensibilité.
Sensibilité au monde extérieur ou sensibilité, émotivité ?
Mais la personne a des capacités de décodage qui parfois le rendent même un petit peu suspect parce qu'elle se rend compte tout de suite en regardant quelqu'un, en étant dans un lieu, elle arrive à décoder des indices que les autres ne voient pas. Donc, quand on décode certaines choses, il est évident que l'on va réagir plus tôt et parfois on va réagir plus fort.
Avant de donner la parole à Marcel Ichoux, est-ce qu'adulte, on peut se déclarer ou se découvrir surdoué ? Est-ce que
tout
les auditeurs, là, peuvent tout à coup découvrir la
Tout à fait, mais de toute façon, un adulte surdoué a été un enfant surdoué, mais cela a pu passer inaperçu ou son entourage a refusé de le voir ou d'en tenir compte.
Et est-ce que c'est important de le savoir quand on est adulte ? Est-ce que c'est pas on n'a pas le sentiment d'avoir perdu du temps en l'apprenant tardivement ?
Mieux vaut se rendre compte que peut-être on a perdu un petit peu de temps et bien utiliser le temps à venir.
Marcel Ichoux, vous vouliez réagir ?
Oui, deux choses sur le talent. On parle souvent, on aime bien quantifier, notamment quand il s'agit de surdoué. Or, on peut quantifier l'intelligence, on quantifie plus mal l'émotion. Oui. À côté du quotient intellectuel, il y a un quotient émotionnel et vous avez des gens qui sont vraiment très doués. Il faudrait vraiment tout de suite qu'on dise que le coefficient intellectuel, le fait d'être surdoué, oui, n'est pas la promesse d'une réussite et que bien souvent, des gens moins doués, mais plus travailleurs, et pour citer Brassens, il disait, pour le citer, sans technique, le don n'est qu'une sale manie. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir des gens un peu plus besogneux, mais qui travaillent.
Vous soulignez quelque chose de très important, parce que, effectivement, l'intelligence relationnelle aussi va compter de manière importante dans la réussite d'une personne. On peut être très intellectuel et rester dans son petit coin.
Et en tout cas, c'est ce que l'on constate parfois. Allez, dans un instant, nous allons prendre Guylaine en ligne. À tout de suite.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Monique de Kermadec, vous êtes notre invitée aujourd'hui jusqu'à 16h pour les auditeurs d'RTL et pour parler des enfants et des adultes surdoués. Est-ce qu'une personne surdouée, Monique de Kermadec, est assurée d'avoir de bons liens sociaux et avec les autres, et dans la société, et dans la scolarité, évidemment, dans la cour d'un lycée pour les plus jeunes?
L'intelligence relationnelle est effectivement un point sur lequel les parents doivent être attentifs lorsqu'ils ont un enfant précoce. Parce que le décalage intellectuel va faire que cet enfant très jeune peut se sentir marginalisé, extérieur au groupe, et peut avoir du mal à comprendre les raisons pour lesquelles il a du mal à se faire des amis.
Donc ça vient de lui et ça ne vient pas des autres ?
Ça vient des deux. Je pense que les petits sentent très bien la différence. Dans une cour de récréation, un enfant qui ne s'intéresse pas au jeu des autres est forcément un enfant qui est mis de côté. Donc l'enfant sent une différence, il pourrait la vivre en se posant question, mais bien souvent il va la vivre de manière négative parce que ça lui vaut un rejet. Et à ce moment-là, il se dira, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Il va se mettre à l'abri en fonction de la réaction des parents. Si les parents disent, mais il ne faut pas avoir peur, voilà comment tu peux éventuellement faire pour proposer à quelques petits camarades de jouer avec toi. Si le parent apporte des recettes, l'enfant va les essayer. Si le parent dit, bien évidemment, tu es tellement intelligent que personne ne peut te comprendre, et va justifier la mise à l'écart, à ce moment-là, l'enfant va rester sans recettes pour commencer à lier des amitiés. Et ceci peut continuer au collège, peut aller beaucoup plus tard dans la vie. Au collège, un enfant qui a 2 ans d'avance va avoir du mal à être camarade avec un camarade qui a 17 ans, de la barbe, une grosse voix, alors que lui est tout petit et fragile.
Eh bien justement, alors là c'est formidable, vous me parlez d'un enfant qui a 2 ans d'avance, c'est le cas du fils de Ghislaine qui va nous apporter son témoignage maintenant. Bonjour Ghislaine.
Bonjour Flavie.
Vous nous appelez de hier, Ghislaine. Ah. Vous avez un fils de 16 ans, comment s'appelle-t-il ?
Roman.
Alors, Roman, il a eu 2 ans d'avance jusqu'en 3e, précisément. Et une fois arrivé au lycée, on va dire que l'univers et le chemin, en tout cas, qu'avait emprunté Roman, a été quelque peu détourné.
Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, il s'est passé que c'est un enfant qui... Il avait très peu de copains, il a été basculé d'école en école.
Oui.
Ça a été dramatique, il a fait beaucoup d'écoles primaires, il a fait un collège, mais je ne sais pas comment ils ont fait pour le supporter. D'année en année, il voulait me le faire redoubler, il me disait qu'il n'aurait jamais son brevet, il a eu son brevet. Mmh. Et après, il est rentré en seconde, ça, évidemment, avec 2 ans d'avance, il s'est retrouvé avec des copains beaucoup plus grands, et pour se faire valoir, je crois qu'il les a suivis, mais il ne savait pas s'arrêter.
Mmh. Et c'est-à-dire, alors quand vous dites...
Les enfants faisaient des bêtises cachées, et lui, il les faisait ouvertement, si bien que le proviseur m'avait convoqué en me disant « Le mieux pour vous, ça serait de le mettre en internat ». C'est ce que j'ai fait, et ça a été l'horreur, parce que c'est un enfant qui m'a dit « Puisque tu me mets en internat, je ne ferai rien », et il n'a rien fait de l'année.
Aujourd'hui, il en est où, Roman ?
Roman vient d'être exclu d'un lycée, et il se retrouve sans rien.
Depuis quand savez-vous que Roman est un enfant précoce ?
Ben, ça a commencé à l'âge de 3 ans, j'avais des problèmes à la maternelle, ouais. Donc j'ai cru qu'il avait un problème dans sa tête, mais je ne pensais pas que c'était un enfant intelligent. C'est un enfant qui était très propre, il a fini par redevenir sale, vomir pour aller à l'école. On a fini par l'emmener chez un psychologue qui a détecté que c'était un enfant précoce. Il ne l'a jamais su qu'en seconde.
Alors, c'est-à-dire que c'est vous qui lui avez annoncé en seconde, pourquoi lui avez-vous dit si tard ?
Parce que c'est un enfant qui est déjà assez sûr de lui. Enfin, il n'est pas sûr de lui du tout, mais assez prétentieux.
Il affiche, d'accord, ok.
Donc, il avait peiné à avoir des petits camarades. Il a commencé à se faire quelques camarades en sixième, qui avaient 2 ans de plus. Il est toujours camarade avec, mais il n'en a pas une palanquée. Hein. Il en a 3-4, c'est toujours les mêmes. C'est un enfant qui restait souvent tout seul. Et puis ça dégénère. D'année en année, ça dégénère.
Monique de Kermadec, qu'est-ce qu'on peut dire à une maman comme Ghislaine?
Je sens que Romain est à la recherche de lui-même, et il est à la recherche aussi, il a besoin d'être accepté. Et pour se faire accepter, il a pris les plus marginaux, il a pris ceux qui l'utiliseraient aussi pour lancer certains défis qu'il n'osait pas lancer eux-mêmes. Ce qui serait bon, c'est qu'aujourd'hui, puisque Roman est un grand adolescent, c'est qu'il puisse parler avec quelqu'un, et pourquoi pas un thérapeute homme, puisqu'il est à la recherche de lui-même, qu'il puisse comprendre quels sont les atouts qu'il a dans ses mains et qu'il peut les utiliser tout à fait autrement. Et tout est possible, je vous assure, j'ai déjà reçu de grands adolescents, il y a la possibilité de reprendre à ce moment-là, on n'est pas encore vraiment adulte, certaines choses, même s'il est dans le défi et la provocation.
Ghislaine, est-ce que votre fils a déjà été suivi? Est-ce qu'il a déjà consulté?
Eh oui, 6 fois.
Donc, ça veut dire 6 thérapeutes différents.
Voilà.
Mm-hmm. Qu'entendez-vous par mal terminé? Excusez-moi, mais je suis très curieuse.
Alors, mal terminé, c'est-à-dire qu'au départ, quand il était petit, la première psychologue qui l'a suivi m'a dit que ça serait bien d'avoir un homme. Donc, on l'a mis 1 an chez un monsieur et ça n'avançait pas. Roman n'avançait pas, il faisait toujours le bête, il faisait toujours des bêtises à l'école et j'avais l'impression de perdre mon temps. Il refusait plus ou moins d'y aller, alors on espaçait de plus en plus les visites et puis après il a refusé catégoriquement d'y aller. Mm-hmm. Après j'ai revu quelqu'un et cette personne me disait que c'était de ma faute, que j'étais trop sévère parce qu'à chaque fois qu'il me faisait des bêtises, moi je n'allais pas trop dans son sens, je le punissais. Et c'est un enfant qui a toujours été puni, mais qui a toujours accepté les punitions. Il s'est jamais rebellé. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, c'est un enfant qui est extrêmement gentil avec nous. Le seul problème, c'est dans l'école. L'année dernière, j'ai essayé de trouver une musicothérapeute. Il y est allé 3-4 mois, et après, il a refusé catégoriquement d'y aller. Et cette personne-là m'a dit, mais c'est pas la peine, je n'arriverai à rien, étant donné qu'il refuse.
J'entends, Ghislaine, que vous essayez de trouver des solutions pour soutenir Roman. Pardonnez-moi cette question, mais on a le sentiment, quand vous parlez, que vous êtes seule dans l'éducation que vous donnez à votre fils. Est-ce que son papa est là?
Son papa est là. Mm-hmm. On est un couple qui marche très très bien.
Est-ce que son papa intervient aussi?
Il est un peu démuni. Parce que c'est un enfant qui est gentil avec nous et le problème se retrouve qu'à l'école, quoi. Et bien à l'école, parce qu'à l'extérieur, c'est un enfant qui est apprécié de tout le monde.
Marcel Ichoux, qu'est-ce qu'on peut dire à Ghislaine?
Ce qu'on peut dire, c'est que quand une stratégie fonctionne pas, il faut utiliser la stratégie du changement. Pour être surdoué, il est un peu comme tous les enfants, et on s'aperçoit que quand les enfants sont en échec, ils n'ont pas trouvé la voie qui leur correspond. Donc plutôt que de forcément, si la voie des thérapeutes et musicothérapeutes ne fonctionne pas, c'est de lui donner, non pas faire de la musicothérapie, mais peut-être de la musique, de la peinture, du cinéma, de la littérature. Bref, s'il est surdoué, il y a un moment, il va être en confrontation avec quelque chose qui va l'épanouir, et là, ça peut être quelque chose qui va le transformer, parce que là, pour le coup, son intelligence va se mettre en marche.
Alors, évidemment, le terrain d'épanouissement, il est important à trouver, mais en tant que parent comme Ghislaine, à un moment donné, on sent qu'on essaye de proposer, et puis on n'y arrive plus. Comment faire pour renouveler l'imaginaire? Comment trouver la situation?
Ce que vous soulignez de manière importante, c'est qu'il est dans un rôle passif. C'est toujours l'environnement qui essaye de modifier les choses pour lui, et il n'a jamais eu l'occasion, en fait, lui, de proposer quelque chose.
Ou de prendre une décision.
Voilà, de prendre une décision. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faut agir, et c'est là que lui doit s'impliquer.
Ghislaine, en tout cas, j'espère qu'on vous aura apporté quelques petites clés que vous n'avez pas eues jusqu'à présent, mais je vous remercie aussi pour votre témoignage qui doit éclairer certains de nos auditeurs.
Merci.
Et puis on vous souhaite évidemment, et puis on souhaite surtout à Roman de trouver la voie de son épanouissement. Merci de nous avoir appelé, Ghislaine. Au revoir.
Bonne journée,
au revoir.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL Première Radio de France. Jusqu'à 16h, la vie flamande sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Monique de Kermadec, auteure de L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué, paru chez Albin Michel, est votre invitée aujourd'hui jusqu'à 16h. Et nous parlons donc, évidemment, vous l'avez compris, des surdoués qui soient adultes, mais qui soient également enfants. On vient d'entendre le témoignage d'une maman un petit peu perdue, hein, voire beaucoup perdue avec son fils Roman, qui Ghislaine, qui a eu la gentillesse de nous téléphoner. Donc on comprend bien qu'être surdoué ou être enfant précoce peut être une véritable source de souffrance, voire de retrait par rapport à la société. Quelques questions, Monique de Kermadec. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que l'environnement socioculturel dans lequel on a été élevé influence le QI?
On a toujours essayé de répartir, je dirais, ce qui serait héréditaire et ce qui serait acquis. Mmh. Parfois, on dit que la moitié, en fait, de notre intelligence viendrait des gènes et que l'autre partie subirait l'influence de l'environnement dans lequel nous grandissons et dans lequel nous vivons. Je pense que tout n'est pas acquis, bien évidemment, mais que les études les plus récentes montrent que si nous sommes dans un environnement favorable, nous pouvons augmenter notre chiffre de QI. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que si nous quittons cet environnement favorable, nous retournons à notre niveau de fonctionnement. Donc, quelqu'un, par exemple, qui arriverait à gagner 5 à 10 points de QI en étant, par exemple, à l'université, avec stimulé, des camarades qui sont plus brillants et stimulés, va fonctionner au meilleur niveau possible. Mais si il retourne dans son petit coin, ne lit plus, se spécialise dans quelque chose d'un peu répétitif, cette personne va perdre certains points qui ont été acquis.
Ça veut dire que le haut potentiel n'est pas acquis à vie?
Si, on parle là quand même
il peut y avoir des variantes,
cas, c'est extrême. Oui. Le QI peut varier, bien évidemment, dans la mesure où, si vous êtes dépressif, si vous êtes absolument épuisé, vous serez moins performant à test un jour qu'à un autre moment. On sait aussi qu'un enfant qui est toujours en situation d'apprentissage peut accroître son chiffre de QI. Mais néanmoins, on ne passe pas d'un QI qui est un QI de 100, qui est la norme pour son âge, à un QI de 130, comme ça, en quelques temps. On peut, par quelques points, augmenter son QI, mais c'est absolument tout.
Comment les personnes surdouées perçoivent-elles le monde ?
Je trouve qu'il y a un regard particulier sur le monde qui est très difficile à définir, mais il est évident que, avant tout, être surdoué, c'est avoir un rapport un petit peu différent au monde. Un rapport différent peut-être parce qu'on en décode plus de choses, un rapport différent parce qu'on en a beaucoup plus de choses, oui, et parce qu'on attend de soi-même beaucoup plus de choses aussi. Donc les relations sont modifiées par cet état d'esprit.
Et comment le monde perçoit-il les personnes surdouées ?
Alors la première chose, c'est la différence. Et la différence n'est pas toujours quelque chose de positif. La différence peut être menaçante pour celui qui est en face. Et à ce moment-là, il est important que celui qui possède cet en plus ne vive pas cette différence comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme une richesse.
Marcel Ichoux, vous voulez
réagir ? Oui, sur la différence entre l'inné et l'acquis, oui, et en gros sur le potentiel. Il faut comprendre que le cerveau humain est quelque chose de dynamique et que l'être humain est un être avant tout social. Donc s'il n'a pas d'environnement, oui, il a potentiellement un QI excellent, mais si vous laissez un enfant non socialisé dans une forêt tout seul, il deviendra un animal et avec un QI qui ne se développera jamais. En revanche, quelqu'un qui part avec un QI, disons honorable, mais qui bénéficie dans un environnement culturel, émotionnel, va augmenter son potentiel.
On n'en fera pas nécessairement un surdoué, néanmoins.
On entend bien. Monique de Kermadec, vous parliez il y a un instant de la différence. Est-ce qu'un enfant surdoué, que l'on n'a pas encore détecté ou diagnostiqué comme surdoué, se sent différent et souffre de ça ?
Il va se sentir différent si l'environnement scolaire ou l'environnement familial lui reproche quelque chose, lui reproche de ne pas être dans une norme et là où on l'attend.
Très bien, on se retrouve dans un instant avec un nouveau témoignage. C'est Michel qui nous a appelé. Nous allons la prendre en ligne. Elle va nous raconter son histoire. À tout de suite.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Aujourd'hui, en compagnie de notre invitée Monique de Kermadec, nous mettons à l'honneur les surdoués, ce que l'on appelle les enfants précoces, aussi adultes surdoués, et puis les difficultés aussi qu'ils rencontrent, puisque aujourd'hui nous sommes là dans cette émission, vous le savez, pour en savoir plus, évidemment, et pour faire tomber certaines idées reçues. Michel a voulu nous faire part de son expérience, elle est maman de deux enfants dits précoces. Bonjour Michel.
Bonjour à vous tous.
Michel, vous avez une fille de 18 ans, un fils de 12 ans. Dans quelles circonstances avez-vous réalisé que vos enfants étaient surdoués?
Ça a commencé d'abord par ma fille qui, en classe de CP, sa professeure, en fait son institutrice, s'est aperçue qu'elle allait très vite, c'était un double niveau, donc elle m'a interpellée en me demandant de la faire déceler. Et donc, ce que l'on a fait, et de là, elle a donc fait une classe CPCE1 dans la même année. Et bon, voilà, elle a été décelée très tôt, et derrière, avec toute une mise en place, classique, suivi, etc. Il y a eu beaucoup de déboires, on va dire, après, parce que malheureusement, je me suis rendu compte, c'est que peu d'instituteurs sont prêts à accueillir ces enfants-là, et derrière, ça a formé quelques complications puisque l'instituteur qui l'a prise en CE2 ne souhaitait pas, elle, prendre en compte ce genre de choses. Elle trouvait que c'était une erreur. Donc j'ai découvert malheureusement au bout de 6 mois que ma fille passait beaucoup de temps dans le couloir, qu'on la mettait à l'écart, etc. Et derrière ça, ça a beaucoup compliqué puisque ma fille a commencé à se faire vomir et on nous cachait aussi ça à la cantine. Enfin bon,
elle a eu des troubles alimentaires.
Très jeune. Et donc, après, ça a été une grosse prise en charge par un psy sur Paris. Nous, on était loin puisqu'on était en Normandie. Il n'y avait pas de structure. Moi, le sur quoi je voudrais, parce qu'aujourd'hui, ma fille va bien. Bon, elle a eu un parcours, etc. Avec des psychomodes, des psys, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, elle va très bien. Elle a fait une classe, elle le vit bien. Elle a eu son bac, elle a hypocagne, enfin, pas mal de choses. Mais derrière, bon, moi, ma situation personnelle a un petit peu été modifiée et mon petit garçon est dans cette problématique-là. Mais ce sur quoi j'aurais aimé alerter un peu, c'est la prise en charge financière, en fait, de tout ce suivi que ces enfants ont.
Oui.
Et qui n'est pas forcément, reconnu, puisque le neurologue que j'avais vu, moi, à Garches, m'avait bien dit, il y a deux formules. Si vos enfants ont plus de sang, de QI, vous ne serez pas pris en charge pour toute le suivi psychomote, etc. Par contre, si vous êtes en dessous de 100, alors que quelque part, pour lui, il n'y avait pas grande différence entre les deux, quoi. Voilà, j'aurais voulu un peu alerter.
Alors, on entend, on reviendra après avec notre invité sur cette idée de souffrance aussi, hein, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais être précoce, être surdoué, Michel, vous pouvez nous confirmer que ça n'est pas forcément un gage d'épanouissement, en tout cas si ça n'est pas réellement pris en charge. Mais on reviendra là-dessus. C'est très étonnant quand même, Monique, la réaction de non seulement d'abord du corps enseignant, c'est-à-dire que certains professeurs sont dans la négation du caractère précoce des enfants, donc ne les aident pas à avancer. Et je pense que là, il peut y avoir effectivement des dégâts majeurs. Et ensuite, on va revenir sur ce coût financier, c'est-à-dire qu'avoir des enfants dits précoces, c'est coûter plus d'argent. Et là, on ne parle pas que des psys, Michel, on est bien d'accord.
Pas du tout, parce que moi, je sais que, par exemple, Maëva, derrière, il y a eu un choix, par exemple, de la mettre dans une institution privé qui mélange, qui n'est pas du tout entre guillemets en faire des bêtes de concours, mais qui au contraire le dialogue de cet institut, c'est de leur dire voilà, il va falloir accepter à vivre dans un monde qui ne va pas peut-être comprendre toujours ce qui se passe dans votre tête. Donc si vous avez un QI de 140 mais que vous voulez faire coiffeur, et ben il faudra juste s'épanouir dans ce que l'on est. Mais ces instituts aujourd'hui, malheureusement, elles coûtent et c'est vrai que malheureusement il y a quelques prises en charge régionales, des choses comme ça, mais
on va laisser Monique, si vous le voulez bien, de Kermadec, revenir sur ce sujet là si vous voulez bien, Michel.
Oui, je me demandais quel type de prise en charge avait été proposée pour vos enfants, parce que dans les faits, lors de primaire, par exemple, lorsqu'il y a un saut de classe, il est important de demander à la direction de l'école, mais aussi à l'enseignant, un accompagnement qui permet un approfondissement, qui permet un regard sur le fonctionnement de l'enfant et qui progressivement lui apprend aussi à devenir scolaire. Car un des points majeurs, c'est que l'enfant précoce fonctionne sur ses facilités. Ce qui plus tard peut être une raison d'échec au collège, dans la mesure où l'enfant habitué à une pensée magique espère toujours trouver ses réponses sans trop de travail. Or, en quatrième, là où les notes chutent, on sait que les méthodes deviennent absolument essentielles pour la réussite.
Et alors, donc, vous, Michel, vous avez été confronté à ce problème ?
Ah oui, complètement, complètement. Je rejoins complètement. C'est-à-dire que l'enfant précoce peut devenir un vrai cancre et ne pas être blessé, par exemple, par rapport à ça. Parce que si son esprit, effectivement, il est habitué à ce que ça il comprenne.
Ça fonctionne tout seul, quoi.
Voilà. Il va sauter des étapes. Je prends dans le cas d'un raisonnement mathématique. Il va avoir compris le raisonnement. Il va le noter. Et on va, pour certains, penser qu'il aura copié. Parce que lui, il ne voit pas la nécessité de marquer tout le cheminement. Et tout ça, c'est un apprentissage. Alors, c'est vrai que certains professeurs, certains instituteurs vont écouter. Mais quand on a des classes à 30 ou même à 25, on ne va pas se focaliser sur un seul. Donc, on fait ce qu'on peut.
Et donc, les placer dans des instituts spécialisés, ça a un coût et ça n'est pas à la portée de tout le monde.
Il est important quand même de savoir que certains enfants précoces peuvent être heureux dans un circuit classique, dans la mesure où l'enseignant apporte une certaine écoute et est sensible aux besoins de l'enfant. Il ne faut pas que les parents pensent qu'on doit systématiquement être dans un établissement avec un enseignement spécialisé.
Merci beaucoup Michel.
Merci
de nous avoir appelé. Vous embrasserez vos enfants pour nous.
Merci beaucoup.
Et on vous souhaite le meilleur à l'écoute RTL. Merci.
Merci.
Au revoir.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Monique de Kermadec, quels adultes deviennent les enfants précoces? Alors vous allez me dire, évidemment, tout dépend de la façon dont ils ont vécu leur enfance de surdoué. Mais est-ce qu'il y a un profil adulte?
Il y a plusieurs adultes surdoués. Il y a ceux qui, bien sûr, bien préparés à cette vie adulte, vont réussir et vont réussir avec facilité. Ce sont ceux que l'on admire et on rêve tous d'être comme eux. Et puis, il y a ceux qui ont des talents, mais qui, quelque part, ont eu du mal à trouver leur place. Et parce qu'ils ont eu du mal à trouver leur place, ils n'ont pas pleinement développé leur talent, ils ont pu rester avec certaines frustrations, certains se sont déprimés. Bien évidemment, quelque chose peut être fait, il est absolument essentiel que cela sache.
Alors justement, on va demander à Philippe s'il se sent concerné par ce que l'on vient de dire. Bonjour Philippe.
Bonjour Flavie.
Philippe, vous avez 64 ans,
oui.
Vous nous appelez d'Arcachon.
Oui.
Et si je résumais un petit peu votre parcours, vous avez, quand vous étiez jeune, vous avez toujours eu le sentiment d'être rejeté. Vous préfériez visiblement rester avec des personnes plus âgées. À l'école, vous vous ennuyez. Alors évidemment, là, je dresse le portrait, je dirais, un petit peu cliché et classique de l'enfant surdoué. Ce que je note aussi, c'est que vous dites que vous avez toujours fait cavalier seul dans votre vie.
Ben oui. Oui, oui. Moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait étant enfant. Je m'ennuyais, c'était pas possible. Je comprenais avant tout le monde, donc je m'isolais. Mmh. Voilà.
Est-ce qu'on a diagnostiqué votre précocité?
À l'époque, ça ne se disait pas comme ça.
Alors, comment l'avez-vous su?
Je l'ai su à l'armée. J'ai compris à l'armée après. Puis on me disait, étant enfant, on voyait bien que je comprenais très vite les choses. Et puis j'avais pas besoin de lire les trucs. Je lisais le début, j'avais compris la fin. C'était quelque chose de frustrant parce que je n'étais pas intégré dans les groupes. J'étais rejeté plutôt.
Alors bon, vous avez senti une véritable différence très tôt. Adulte, vous dites que vous avez fait votre vie petit à petit. Ça veut dire que vous avez pris conscience donc de cette précocité, en tout cas du fait d'être surdoué, et vous avez décidé de lutter contre, je dirais quelque part, les conséquences aggravantes de la situation.
Je ne le vois pas tout à fait comme ça maintenant, avec le recul, l'analyse d'une vie, de bonheur, de joie. Mais je me suis créé mon univers. J'ai préféré être maître de la situation. Et j'avais pas fait beaucoup d'études, je m'ennuyais, mais je les ai faites par moi-même, autodidacte, par la suite, durant de nombreuses années, même encore. Ça m'arrive de continuer à réfléchir sur moi-même et sur les autres. Mais j'ai construit ma vie professionnelle, ma vie familiale, je l'ai construite, petit à petit.
Quelle a été votre vie professionnelle, Philippe?
Alors, j'ai débuté parce que j'avais trouvé le moyen de pas être trop rejeté dans le milieu artistique, le milieu des arts, la création artistique et le dessin.
D'accord. Voilà. Alors, ce que je note, Monique de Kermadec, c'est Philippe qui dit qu'à un moment donné, il a décidé d'être maître de sa vie, donc de ne plus être passif.
C'est une très bonne décision. C'est ce qui convient le mieux aux adultes surdoués, dans la mesure où leur rythme, leurs attentes sont différentes. Et lorsqu'ils travaillent soit dans une profession où la créativité est importante, ou lorsqu'ils travaillent en auto-entrepreneur, ils sont beaucoup plus heureux et beaucoup plus satisfaits. Donc le choix de Philippe est un choix tout à fait positif.
Philippe, vous nous avez parlé de votre enfance où vous aviez le sentiment d'être rejeté. Est-ce qu'à l'âge adulte, vous avez eu ce même sentiment de méfiance à votre égard?
Je vous dirais kiff-kiff. C'est pareil. C'est pareil quand on est adulte, parce qu'on passe pour le monsieur je sais tout. Demande-lui, il connaît, il va connaître. Alors c'est toujours, au bout d'un moment, on est mis en vedette dans un groupe et forcément un petit peu rejeté et rejeté. Voilà. Alors j'ai trouvé le moyen, après le milieu des arts, parce que je suis allé dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Voilà.
Alors,
j'ai développé ma profession comme ça.
Alors comment faire, Monique, pour trouver sa voie, son épanouissement, quand on est soi-même un peu paumé, qu'en plus de ça, on se sent différent des autres, on est diagnostiqué différent. Comment faire pour lutter contre tous ces blocages?
Alors je pense qu'on doit commencer par un état des lieux, parce que bien souvent, l'adulte surdoué qui est resté un petit peu sur le côté du chemin est quelqu'un qui a essayé quand même à un moment ou à un autre de s'adapter et qui parfois progressivement a renoncé à être lui-même. Donc on peut se retrouver à un moment charnière de sa vie où on se dit mais je suis un endroit qui ne m'intéresse pas, je ne sais plus qui je suis, quelles sont mes valeurs. Donc il est important à ce moment-là de se dégager de ce faux self que l'on a construit pour se faire accepter.
Oui.
À partir de là, bien évidemment, il peut être important d'avoir quelqu'un avec qui réfléchir, parce que réfléchir seul peut parfois faire que nous tournions en rond et que nous ayons un sentiment d'intense frustration. Mais redéfinir les choses, prendre contact avec nos valeurs, ce qui est important pour nous. Il n'y a pas qu'une réussite financière dans la vie, il n'y a pas que de réussite fulgurante, il y a réussir sa vie. Mmh. Et ce que l'on peut souhaiter à tous les adultes surdoués, c'est qu'ils aient le sentiment, un jour ou l'autre, vraiment de réussir leur vie.
Parce que les choses ont été plus difficiles pour trouver l'épanouissement pour eux.
Le parcours a été peut-être plus long, parfois plus chaotique ou plus douloureux, mais je pensais une chose que Philippe n'a pas évoquée, c'est parfois la difficulté pour un adulte surdoué de trouver le compagnon ou la compagne qui va comprendre cette différence et vivre positivement avec cette différence.
Ça a été votre cas, Philippe ?
C'est très difficile en couple, parce qu'il y a des heurts. Il y en a un qui comprend vite, l'autre aussi. Mais chacun veut tirer la couverture à soi et ne veut pas être diminué par rapport à l'autre, ce qui est normal. Mais je vous rassure, j'ai été marié pendant de longues années, toujours marié, toujours avec la même épouse. Ça fait 42 ans qu'on est mariés depuis quelques jours, voilà.
Ah bah formidable, bon, bah ça c'est anniversaire de mariage. Là on vous félicite, c'est à peu près comme Marcel Ichou. Hein. Excusez-moi Marcel, j'arrête pas de parler de Madame Ichou, mais enfin vous c'est 40 ans. Donc il y a quand même le côté, alors je parle pas dans votre couple hein, Philippe, hein, mais je me tourne vers notre invité, concurrentiel. La société, les gens disaient de Philippe, tiens demande-lui à lui, c'est le plus intelligent, un peu un petit côté voilà dictionnaire. Dans un couple, chercher un petit peu à tirer la couverture à soi, vivre avec quelqu'un de considéré comme plus intelligent peut nous poser des problèmes d'ego. Comment est-ce qu'on arrive à vivre en paix dans cet univers de concurrence quand on est surdoué ?
Je pense que comme dans tout couple, on doit faire un effort. On doit faire un effort pour que les deux soient quand même suffisamment gagnants. Mais il est vrai que si on a certains stéréotypes et qu'on pense par exemple que dans le couple, l'homme est celui qui a toutes les responsabilités, qui sait tout, et la femme est soumise et à la maison,
oui.
Bien évidemment, si la femme a des idées bien arrêtées, il va y avoir rapidement des conflits. On peut avoir des femmes, par exemple, moi j'en vois en consultation, qui ont le sentiment de faire peur aux hommes. Parce qu'elles tiennent beaucoup à leur projet personnel, parce qu'elles veulent argumenter, discuter de certaines choses. Et à ce moment-là, elles ont du mal à trouver le conjoint qu'elles souhaiteraient avoir. Néanmoins, on peut être surdoué et avoir un couple heureux et vivre en harmonie avec les petits désaccords qui existent dans tous les couples.
Oui, ça c'est tout à fait normal. Philippe, je vous remercie vraiment pour votre témoignage sur l'antenne d'RTL.
Oui, je vous en prie, je vous remercie.
Et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Pareil, et Madame Monique de Kernodec également.
Merci.
Au revoir, merci.
Au revoir.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
Sur RTL.
Marcel Ichou, je sens que vous avez quelque chose à objecter.
Ah non, c'était pas à objecter, c'était plutôt à éclairer.
Oui.
La vie d'un surdoué n'est pas forcément une vie de souffrance. Parce que, comme le disait Monique, il y a l'aspect d'intelligence un petit peu hors norme, mais il y a aussi tout l'aspect relationnel et relation avec les autres. Et certains surdoués peuvent se faire accepter et vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. C'est-à-dire qu'il y a aussi un petit côté liberté, autonomie absolue et des bonnes stratégies, y compris dans le relationnel, potentiel pour vivre la vie qu'ils ont envie de rêver.
Vous soulignez quelque chose qui est que si l'intelligence, par exemple, cognitive nous est donnée, nous pouvons l'améliorer un tout petit peu, l'intelligence relationnelle et l'intelligence émotionnelle, nous pouvons les développer et les travailler tout au long de notre vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tant tenu à écrire ce livre, car je pense qu'il faut éviter qu'il y ait plus de souffrance, plus de gâchis, et que tous ceux qui se sentent concernés sachent qu'il existe une solution.
Toujours et quel que soit l'âge, l'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué. C'est l'ouvrage de votre invitée aujourd'hui, Monique de Kermadec, paru chez Albin Michel. Est-ce que vous reviendrez, Monique de Kermadec,
dans cette émission? Très volontiers, je suis partante. je suis revenante.
Voilà. Je vais vous expliquer justement pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on a souligné la différence, la souffrance. Et puis, vous savez, nous, dans cette émission, on essaye de faire évoluer les mentalités, bien aller sûr, un petit peu plus loin que les préjugés. Oui. Maintenant, on veut des réponses pratiques, c'est-à-dire que faire concrètement quand on a un enfant précoce, des institutions ou pas. Voilà, donc vous serez la bienvenue dans une émission prochaine dans cette
chaîne. J'en serai ravie.
Dans ce studio, merci en tout cas à vous. Marcel Ichou, je vous remercie. Vous êtes toujours revenant, hein, puisqu'on se retrouve donc tous les jours.
Et demain, j'espère que je ne suis pas un fantôme.
Non, mais demain, Marcel, c'est un sujet qui ne vous concerne pas, mais qui touche beaucoup de personnes en France d'une façon continuelle ou épisodique. C'est le sentiment de solitude dans le couple. Parfois, vivre à deux ne veut pas forcément dire partager et pouvoir se reposer sur l'autre. Le sentiment de solitude n'en est que plus douloureux. Alors comment se donner les moyens de se reconnecter l'un à l'autre et de ne plus vivre en solo? Comment retrouver l'harmonie et préserver ce qui a été construit ensemble? Faut-il apprivoiser finalement ce sentiment de solitude? C'est ce que nous verrons avec votre invité, le psychiatre Christophe Fauré, et puis avec vos témoignages évidemment sur la question que nous attendons au 3210. On se retrouve donc demain sur RTL dès 15h. D'ici là, n'hésitez pas à nous réécouter sur RTL.fr. Puis moi je vous embrasse et je vous dis à demain sur RTL. Et pour l'instant, je vous laisse en compagnie de Philippe Bouvard et de ses grosses têtes. Je vous embrasse.